pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est un mouvement qui monte, pas assez vite, pas assez fort, mais la dynamique est en marche. Dans le monde entier, des centaines de milliers de citoyens s'engagent pour lutter contre les changements climatiques. Petits gestes quotidiens ou manifestations de masse, recours juridiques ou occupation de territoire. Et avec les réseaux sociaux, ça va vite, très vite. Et vous, vous y mettez quand ?
C'est pas du vent. Sur RFI.
Les villages les plus reculés du monde font aussi leur révolution grâce à une association indienne atypique, le Barefoot College ou l'université aux pieds nus. Envoie ses travailleurs parcourir la planète pour dénicher des femmes leaders dans des villages notamment africains. Il les invite ensuite à venir dans la campagne du Rajasthan au nord de l'Inde pour les former à la construction et à l'entretien de lampes solaires. L'objectif, apporter l'électricité là où il n'y en a pas, de manière écologique et durable. L'association a un credo, les villageois, même illettrés, ont toutes les ressources pour se sortir de leur pauvreté, il suffit de les former. Mais notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi, s'est rendu dans ce collège aux pieds nus, au cœur du Rajasthan, pour nous faire découvrir ce bouillon de culture et de technologie.
Alors, on est arrivé dans le centre de formation de Solar Mama. Arti est avec nous, recouvert de son joli voile rose du Rajasthan.
Hello.
Oh, ok, sur le tableau, il y a toutes les nationalités. Ouais, 45 femmes qui viennent donc d'Afghanistan, des Philippines, du Myanmar, Ouganda, Madagascar, Botswana. Ok. Ça fait combien de temps qu'elles sont ici ?
Cela fait près de 6 mois qu'elles sont ici. Dans leur pays, elles ont été sélectionnées par les chefs de village. Ici, elles reçoivent 6 mois de formation pour apprendre à fabriquer des circuits imprimés qui font fonctionner des lampes solaires, des panneaux solaires ou d'autres instruments ménagers similaires. Elles pourront ainsi les assembler et les réparer.
Mon nom est Ili, je viens des îles Fidji. J'ai 37 ans et j'ai 5 enfants.
So what are we doing? Qu'est-ce qu'on fait là?
Nous sommes en train de recharger la lampe solaire.
Oh, okay. Yeah, we charge it right now.
Did you make it yourself?
Yes.
C'est vous qui l'avez fait. D'accord. Donc on voit tout un circuit avec des diodes, des résistances partout et voilà, elle branche les câbles de la lampe pour charger la lampe.
So I'll check the battery first.
Je vais d'abord vérifier l'état de la batterie.
Red LED should on.
La lumière rouge doit s'allumer en premier avant que la lampe ne s'allume. Voilà, c'est allumé.
On voit la lumière rouge qui s'allume.
Ceci est un port USB qui est installé sur le circuit imprimé de la lampe. La lampe, une fois chargée, peut ainsi recharger également des téléphones portables.
Waouh, avec toutes les prises pour toutes les marques de mobiles.
Oui, mais le port ne fonctionne pas. Cela ne charge pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est soit la soudure, soit la résistance.
Là, on prend le fer à souder et on refait une soudure. Allez, on enlève. Donc elle est en train de défaire d'abord la soudure pour la refaire derrière. C'est peut-être ça qui crée un court-circuit. Donc à gauche, ça monte à 12, à droite, ça monte à 16, ça monte à 16.
16 et 12. Le multimètre nous indique que cela charge maintenant. Ça fonctionne.
Good.
It's charging.
Thank you.
Okay, great. Comment ça a été depuis 6 mois pour vous ?
Au début, cela a été très dur pour nous à cause du changement de climat, de nourriture, des gens. Au Fidji, on mange de la viande tous les jours. Ici, seulement une fois par semaine. Mais on s'y fait.
C'était difficile d'apprendre tout ça, c'est quand même quelque chose d'assez technique.
Oui, c'était très difficile. Ce sont des calculs, des mathématiques. Les premiers mois, nous devions apprendre les noms des outils et les ordres de couleurs des résistances, tous les jours, Pendant un mois, on devait répéter tournevis, multimètre, pince coupante.
Pour communiquer, comment vous faites?
C'était difficile au début, mais la plupart du temps, on utilise le langage des signes, car les professeurs prononcent les mots avec un accent hindi, et les autres femmes parlent dans leur langue, en malgache ou autre.
Après que vous connaissez tous les outils, qu'est-ce que vous devez faire?
Après, on doit apprendre comment faire les calculs pour placer les résistances et où les mettre sur le circuit imprimé.
Vous connaissez par cœur maintenant la composition de cette carte?
Oui, je n'ai plus besoin du livre.
Combien de temps pour refaire la carte comme ça?
Ce matin, j'ai déjà fait 3 circuits. Maintenant, c'est facile, mais avant, je demandais toujours au professeur, car je ne comprenais pas. À l'école, j'avais horreur des mathématiques, donc je pensais que je ne survivrais pas ici. Mais si, j'y suis arrivée. J'ai survécu. Et je le dirai aux autres femmes de mon village que c'est bon de reprendre le chemin de l'école. Nous devons apprendre tout cela. Nous pensons que c'est le travail des hommes de monter sur le toit, de souder tout cela. Moi, je pensais aussi que ce n'était pas pour les femmes. Mais maintenant, je sais que les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent.
D'où vous venez et qu'est-ce qui vous a poussé à venir?
Je représente le village de mon mari. C'est à Rakhirakhira, sur l'île de Viti Levu. Nous avons un commerce de miel et d'huile vierge de coco. J'ai été choisie par les villageois. Notre village n'a pas d'électricité. Nous utilisons donc des lampes à kérosène. Or, le prix du carburant ne cesse de varier. Il n'y a pas d'électricité, donc les enfants ont du mal à étudier. En plus, c'est dangereux. Beaucoup de maisons brûlent quand les enfants tapent dans les lampes, par exemple.
Personne ne fait de l'énergie solaire en Fidji?
Quelques villages en ont, mais pas celui de mon mari. Vous savez, il n'y a pas de route. Cela prend donc 5 heures pour arriver jusqu'à la ville. Et ça coûte plus de 15 euros.
Vous avez ces lanternes à la ville?
Oui, les gens en achètent, mais elles cassent souvent. Et personne ne sait comment les réparer, donc ils les jettent. Ce sont des lampes électriques, ce n'est donc pas facile à réparer. Seuls les professionnels peuvent le faire. Et moi, maintenant, oui, je pourrais aussi les réparer. Et je suis fière de cela. Si les enfants peuvent en bénéficier, cela sera un grand progrès. Ils pourront étudier. Aujourd'hui, ils arrêtent l'école au secondaire. Rapporter la lumière dans le village représentera donc une grande avancée pour l'éducation de nos enfants.
Illy est l'une des 45 Solar Mamas, les grands-mères solaires comme on les appelle ici. Ces femmes sont formées pendant 6 mois à assembler et à réparer des lampes solaires. Elles viennent des endroits les plus reculés du monde, depuis la brousse du Botswana et de Madagascar, jusqu'aux montagnes d'Afghanistan ou d'Argentine. Toutes sont originaires de provinces reculées, pauvres et surtout sans électricité, et la plupart en sortent d'ailleurs pour la première fois. Elles apprennent ici les secrets de l'électricité dans le but d'apporter la lumière dans leur village. Et pour réaliser ce petit miracle, elles sont venues jusqu'ici dans la campagne du Rajasthan, en Inde, sur le campus de l'association Barefoot College. Nous sortons à présent de la salle de formation pour entrer dans la pièce d'à côté où nous retrouvons Bhagwat Nandan, le responsable de ce programme de formation solaire et qui travaille dans l'association Barefoot College depuis 1975. Nous commençons par lui poser une question simple: qui finance un tel projet?
Le coût de cette formation est assuré par le gouvernement indien à travers le ministère des Affaires étrangères. Il y a 2 formations par an depuis 2008. Chaque promotion compte environ 40 femmes et celle-ci est la 20e à être formée. Le gouvernement vient de valider l'augmentation de la taille des groupes. À partir de septembre de cette année, il pourra y avoir 60 étudiantes par promotion. Cette formation de femmes étrangères a commencé en 2004. Pendant les 4 premières années, elle était financée par d'autres organisations, comme l'ONU ou la Banque asiatique de développement. En plus de cette formation, nous envoyons des équipements et lampes solaires aux femmes dans leur village. Cela est financé par d'autres partenaires, comme l'Agence des Nations Unies pour les femmes ou l'UNESCO. Ces femmes reçoivent généralement l'équipement un mois après leur retour. Mais c'est parfois plus long, quand il n'y a pas assez de financement.
Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne former que des femmes ?
Au début, nous avons également formé de jeunes hommes, mais nous nous sommes rendus compte qu'ils partaient ensuite vers la ville. Ils ne restaient pas au village pour installer et réparer les lampes solaires. Les femmes, elles, restent davantage. Et nous avons un accord écrit avec les villages pour nous en assurer. Nous recrutons surtout des femmes de plus de 35 ans, car à cet âge, en Afrique, elles sont généralement grand-mères et ont donc moins de responsabilités familiales. Elles peuvent s'absenter plus facilement. En revenant, elles apportent l'électricité et nous constatons que les villageois les respectent alors beaucoup plus. Les conseils de village les consultent régulièrement.
Alors c'est tout de même, tout cela est une logistique importante de faire venir toutes ces villageoises jusqu'ici au cœur du Rajasthan. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de les former plus près de chez elles, que ce soit en Afrique ou en Asie ?
En Afrique, nous sommes justement en train de monter 5 centres de formation du Barefoot College. Ils sont situés en Sierra Leone, au Sénégal, au Burkina Faso, en Tanzanie et à Madagascar. L'objectif est que ce soit les femmes que nous avons formées en Inde qui deviennent elles-mêmes formatrices sur place. Ceci est aussi financé par le gouvernement indien. Mais au bout de 2 ans, nous aimerions que les gouvernements locaux s'en occupent.
Il est 17h, les grands-mères solaires ont bien travaillé et elles sortent dans la petite cour qui est à l'extérieur. Elles se placent alors en rang pour le rite de fin de journée, la chanson des Solar Mamas. Elles entonnent toutes ensemble en anglais puis en hindi ce même refrain « We shall overcome someday » que l'on peut traduire ainsi « Un jour nous surmonterons tous les obstacles ». Barefoot College est une association née dans la campagne indienne et s'inspire des problèmes de ses habitants. Son objectif, enseigner aux plus pauvres et aux illettrés des savoirs techniques pour les aider à vivre et leur éviter ainsi de migrer dans des villes déjà surpeuplées. L'ONG a été créée en 1972 par Roy Bunker. Lui est un urbain, diplômé des meilleures écoles, mais il s'est rendu compte que les villageois n'ont pas besoin de sa science. Ils possèdent une connaissance bien plus poussée de leur propre environnement. Ce dont ils ont vraiment besoin est simplement de formation technique. Résultat, Barefoot College ne délivre aucun diplôme aux milliers de personnes qu'elle forme chaque année. L'ONG travaille dans de nombreux domaines, depuis la captation des eaux de pluie à la fabrication artisanale de serviettes hygiéniques, mais le cœur de son œuvre est concentré ces dernières années sur l'énergie solaire. Barefoot College a établi sa base à Tilonia, dans la campagne du Rajasthan, sur un grand campus où vivent et travaillent des dizaines de personnes. Et c'est ici, dans un atelier en plein air, que nous retrouvons Gita, une femme âgée habillée en sari coloré. Elle est en train de souder 2 barres d'acier.
Elle fait de la soudure vraiment traditionnelle. Elle est en tongue, elle a juste des lunettes de protection et son voile mauve qui lui recouvre la tête. Puis de manière très nonchalante, elle soude 2 grosses pièces de fer qui serviront à la structure de ce panneau de cuisine solaire.
Cela fait 15 ans que je travaille sur des cuisinières solaires. C'est difficile de souder. Avant, on devait fermer les yeux, car les étincelles sautaient dans nos yeux. Maintenant, on a des lunettes, mais même ainsi, parfois, les étincelles nous touchent. Mais c'est un grand progrès. Je fais partie de la caste des forgerons, mais au village, les femmes n'avaient pas de possibilité de travailler. Monsieur Bunker a changé cela. Et maintenant, nous soudons, nous assemblons les pièces et nous savons construire toute cette cuisinière solaire.
Vous pouvez me montrer comment ça se construit ? Il y a un des panneaux de cuisson qui est debout, qui est déjà prêt. Il est recouvert donc de glace. C'est une structure très simple en acier. Voilà. Et elle l'oriente. Elle le change de direction pour attraper le soleil. Et voilà, et on voit les rayons du soleil du coup qui s'orientent vers un pot en acier aussi.
Ceci est la cuisinière solaire. Cela nous sert à faire bouillir de l'eau et à cuisiner en évitant d'utiliser du gaz. Les rayons du soleil se reflètent sur le panneau miroir composé de 300 morceaux de verre et viennent chauffer la bouilloire qui se trouve en face.
Ça va être très chaud à l'intérieur.
Oui, quand c'est bien orienté, cela crée une chaleur de 300 degrés et on peut faire bouillir un litre d'eau en 8 minutes.
Ah oui, derrière en fait il y a tout un système de chaînes pour faire la rotation.
Le panneau est aligné avec les rayons du soleil. Le poids fait tourner le panneau et il met 3 minutes 23 secondes pour réaliser un tour entier.
Oh, il y a un poids, il y a un énorme poids en ciment.
Oui, ce poids sert de minuteur et il fait bouger le panneau doucement. C'est important, sinon le panneau perd l'angle parfait pour attraper les rayons du soleil. Cela prend du temps et nous devons le remonter souvent, mais ça marche.
On entend le minuteur qui est en fait automatique et qui permet de faire tourner le panneau solaire automatiquement. Ah tiens, un kitab. Ah d'accord, elle me montre le sol, elle me dit voilà, ça c'est notre livre. Et en effet, il y a toutes les inscriptions, les descriptions, les mesures sur le sol. Voilà. 59,6 cm d'une arête, 78, 93. Donc ça, c'est le patron, quoi. Est-ce que vous avez été à l'école, vous? Jamais été à l'école.
Mais je suis allée au Barefoot College. Et maintenant, je peux construire une cuisinière solaire.
Aujourd'hui, Barefoot College utilise cette cuisinière solaire pour faire bouillir l'eau et préparer une partie du repas des dizaines de travailleurs et résidents du campus. Et toutes ces innovations dans le solaire profitent à d'autres, plus jeunes, dans cette région du Rajasthan. L'association a en effet ouvert une vingtaine d'écoles, dont une partie opère de nuit. Pourquoi de nuit? Eh bien tout simplement pour attirer les enfants qui doivent travailler pendant la journée dans les champs et ne peuvent donc pas suivre des cours normaux. École de nuit veut donc dire éclairage obligatoire, et dans ces écoles de Barefoot College, cette lumière est justement produite par des lampes solaires dont les batteries sont rechargées pendant la journée. Nous sommes ici à Gautampura, un village situé à 3 quarts d'heure de route du campus de l'association au Rajasthan. Il est 19h et la classe vient de commencer avec la récitation d'un mantra, une prière offerte au dieu du soleil. Il y a deux enseignants pour deux groupes d'une dizaine d'enfants. Comme l'école est toute petite, l'un d'entre eux, l'un de ses professeurs, donne cours en plein air devant le bâtiment et sous la puissante lampe solaire. Les moustiques volent autour de l'ampoule alors que le professeur offre une leçon un peu particulière. Il s'agit ici de briser les clichés de genre. Il place donc les garçons d'un côté et les filles de l'autre et leur demande ce que les garçons ou les filles peuvent faire comme métier selon eux. Les enfants ont à peine 14 ou 15 ans mais sont déjà pleins de stéréotypes. L'enseignant les démonte les uns après les autres. Gazinder a 15 ans, il a mis une heure pour venir à pied à cette école et il explique ce que cette leçon vient de lui apprendre.
Les garçons et les filles doivent avoir les mêmes droits. Ils doivent avoir les mêmes chances d'apprendre. Les frères et sœurs doivent jouer ensemble, aller à l'école ensemble. Et le frère doit aussi partager les tâches ménagères avec sa sœur. Avant, mes parents, eux, ils pensaient que l'on devait seulement envoyer le garçon à l'école, car c'est lui qui travaillerait et rapporterait de l'argent au foyer.
Ces cours du soir s'inspirent donc du credo de l'association, offrir des connaissances pratiques à ces populations rurales plutôt que de les accabler avec des savoirs académiques. Dans ces écoles, ces enfants oubliés des campagnes apprennent ainsi à utiliser les plantes de leur environnement pour se soigner, en plus bien sûr des bases d'hindi ou d'anglais.
L'université au pied nu, c'était un reportage de Sébastien Farcy.
c'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Est-ce que vous voyez à quoi ressemble un personnage de dessin animé quand il se prend un seau d'eau sur la tête ? À chaque rapport scientifique, c'est la même chose. 60% des espèces vertébrées ont disparu de la planète en 40 ans, seau d'eau. Le climat de la planète se réchauffe plus vite que prévu, seau d'eau. La déforestation s'accélère, seau d'eau. L'océan monte et grignote nos côtes à une vitesse que tout le monde avait sous-estimée. Je continue, vous avez pris assez de seau d'eau sur la tête, alors on fait quoi ? Eh bien on se réveille, on se bouge, on agit, allez hop hop hop. Nous connaissons les solutions, allez un peu douceur maintenant, avec une serviette toute douce. Voici une bonne nouvelle. Des centaines de milliers de personnes se bougent et c'est dans le monde entier. Exemple en France où le 8 septembre, le 13 octobre et bientôt le 8 décembre, nous avons été et nous serons des dizaines de milliers à manifester.
Je pense que c'est vraiment l'absolue priorité et que pour le moment, les gouvernants sont au courant et ne font pas les choses nécessaires. Et donc, c'est à nous de leur dire et de leur faire comprendre, on va leur faire comprendre. Quand on voit beaucoup de monde, on a plein d'espoir. Après, j'espère juste que le gouvernement va en prendre compte. Mais moi, je suis pleine d'espoir.
C'est un de mes premiers rassemblements auxquels je participe. Franchement, le sujet, c'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est la survie, comme on l'entend ici souvent, de l'espèce humaine, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est un sujet qui est très très important et voilà, je me disais, il faut venir, si je dois faire une première fois, c'est ici.
Et ça, c'est le résultat d'une mobilisation organisée entre autres par vous, Elliot Lepers, bonjour.
Bonjour, ouais, de loin, ouais. Mais
entre autres, ouais. Vous êtes nombreux, mais vous allez nous raconter l'histoire de ce hashtag « Il est encore temps » qui est devenu un vrai phénomène national.
Ouais, en tout cas, ça a été un cri de ralliement qui a effectivement a réuni plein de gens, des citoyens dans la rue, des ONG qui sont sur ces sujets depuis des décennies, et puis des gens qui découvrent l'urgence et donc qui se jettent dans cette mobilisation. C'est vrai que c'est assez beau ce qui se passe, peut-être. En tout cas, c'est un élan d'espoir et ça fait longtemps qu'on l'attend.
Alors, vous dites un sursaut. C'est vrai qu'il y a eu la démission de Nicolas Hulot, le ministre français de la Transition écologique et solidaire, fin août. Est-ce que ça a été la goutte d'eau où les gens se sont dit non, vraiment? Vraiment, il y en a ras-le-bol après un été où il y avait eu quand même beaucoup de catastrophes qui rappelaient que voilà, les changements climatiques commencent à se faire sentir. Est-ce que c'est ça qui a donné envie de créer cette synergie dont vous faites partie avec des youtubeurs, comme vous disiez, des ONG, des gens de la société civile? Et puis aussi, moi, enfin, j'avoue, je suis allée moi-même manifester. On voit des familles, on voit des grands-mères, on voit des jeunes entre eux. Enfin, c'est vraiment tout le monde qui se bouge. Enfin, pas assez, évidemment, mais quand même des gens de toute la société.
En tout cas, c'est plus que ça l'a jamais été, effectivement. Et puis, c'était le 8 septembre, c'est de nouveau le 13 octobre, ce sera de nouveau le 8 décembre. Donc, avec cette continuité, avec le nombre de gens dans la rue qui ne faiblit pas, en tout cas, il se passe quelque chose d'inédit. Nous, on travaille là-dessus depuis avant l'été. Hein. On savait qu'il y avait le rapport du GIEC qui allait sortir. On savait qu'il y a la COP24 qui va faire le bilan de la COP21, donc qui avait eu lieu en 2015. Et donc là, c'est pour décembre. Et donc, on s'est dit, il va y avoir un discours très négatif. On va nous dire globalement qu'on va pas y arriver. Donc il faut qu'on contrecarre ça. Il faut qu'on crée un récit extrêmement positif et enthousiasmant. Et puis au milieu de ça, à la fin de l'été, Nicolas Hulot qui démissionne, effectivement, et là, un déclic en fait, qui change complètement la situation, qui montre que le gouvernement n'est pas en train de prendre la mesure. En fait, il montre que là où on pouvait encore avoir un espoir de se dire que la situation était sous contrôle, avec les engagements de la COP21...
On a quand même un champion de la Terre en France.
Exactement. Il se passe plein de choses, plein de titres honorifiques, mais les actes ne suivent pas. Et je pense que c'est ça qui a acté le départ de Nicolas Hulot. Et puis avec cet appel qu'il a lancé finalement à dire « je suis seul, je n'ai pas de soutien dans la société ». C'est ça qui a été démenti par cet élan et puis par un anonyme, Maxime Lelon, hein, qui a créé un événement Facebook qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ça s'est coordonné avec la marche qui était prévue par 350.org, mais qui a du coup été complètement métamorphosée par cet afflux citoyen. Et derrière, des collectifs partout en France qui s'organisent pour en réorganiser une un mois plus tard. Et puis puis tous ces youtubeurs qui produisent des vidéos pour sensibiliser massivement l'opinion à ce qui est en train de se passer, pour amener plus de gens dans la rue, et puis auprès de toutes les initiatives qui émergent, parce qu'il y a des dizaines d'initiatives pour lutter contre les dérèglements climatiques dans toutes les villes, dans toutes les associations, ça fourmille. Donc c'est ça qu'on essaye de mettre ensemble, c'est ça qu'on essaye de rassembler autour de ce site ilestencoretemps.fr pour donner à chacun la possibilité de savoir où s'engager, d'avoir le meilleur endroit où on peut agir à son niveau contre les dérèglements climatiques.
Bonjour Jonathan Guyot.
Bonjour.
Alors vous êtes responsable de solidarité climatique au GERES, c'est le groupe énergie renouvelable environnement et solidarité que je vous laisse nous présenter en quelques mots.
Oui, une ONG de développement international qui a plus de 40 ans. On agit sur pas mal de continents, Afrique de l'Ouest, Asie centrale, Asie du Sud-Est, sur l'accès à l'énergie, l'efficacité énergétique, et depuis des dizaines d'années, on travaille sur la question changement climatique, la lutte contre le changement climatique, à la fois sur ces territoires qui font face aux catastrophes, qui font face aux sécheresses, qui vivent les changements climatiques tous les jours. Donc c'est comment aider ces populations et femmes à se développer face à ces changements climatiques, mais aussi en France, à aider les plus précaires au niveau de l'efficacité énergétique, à s'adapter, à consommer moins d'énergie, mais aussi aujourd'hui mobiliser le citoyen, parce qu'on a pris en considération qu'aujourd'hui il manquait un maillon dans cette mobilisation de changement climatique, c'est le citoyen qui, à travers sa citoyenneté, mais aussi à travers sa fonction de collaborateur en entreprise ou collectivité, peut agir.
Alors justement, vous avez créé un défi aussi, ça s'appelle Solidarité climatique. L'objectif, c'est 1 million d'actions pour le climat. Quel est le principe ?
Alors la solidarité climatique, c'est quelque chose qui est très fort pour le GERES, c'est dans notre ADN depuis des années, c'est de dire, on peut agir chacun à notre niveau, qu'on soit ici ou là-bas, on peut agir pour le climat, qu'on soit un citoyen, une entreprise, une collectivité, et surtout, on ne doit pas oublier de soutenir les populations les plus vulnérables face à ces changements climatiques. Et de cette cause, on en a fait un mouvement qui fédère entreprises, collectivités, citoyens, et l'idée, c'est de dire, mettons-nous tous en marche, agissons, montrons qu'on peut faire des actions au quotidien pour le climat, et on s'est fixé un objectif ambitieux pour d'ici 2020, essayer de montrer qu'on peut mobiliser 1 million d'actions pour le climat.
Alors, ce qui donne envie d'agir, c'est la preuve par l'exemple. Jonathan Guyot, pour remporter votre défi, vous êtes associé avec Julien Vidal, qui s'est lancé un défi personnel, faire un geste écologique au solidaire par jour pendant 1 an, défi relevé. Il vient de publier un livre, ça commence par moi, aux éditions du Seuil, et voici le bilan qu'il dressait de son action il y a peu de temps dans C'est pas du vent.
J'ai réussi en ayant un travail, en ayant un salaire, tout ce qu'il y a de plus raisonnable, de diviser par 5 mon empreinte CO2. Voilà. Un Français émet en moyenne 10 tonnes de CO2, j'en émets aujourd'hui plus que 2. Si on prend le rapport des planètes, vous vous souvenez sans doute que c'est 2,9 planètes qu'il nous faudrait si nous étions tous des Français. Si on vivait à la sauce, ça commence par moi, on aurait besoin de 0,8 planètes. Donc ça veut dire que déjà en 2017, j'avais en fait fait à mon échelle cette découverte incroyable, c'est qu'on a toutes les solutions pour vraiment réussir à adresser ce problème qui est urgent. En plus, je me suis rendu compte que ça mettait en place un véritable cercle vertueux, puisque ça me permettait d'optimiser mon temps, ça me permettait de mieux consommer, ça me permettait d'avoir des produits de meilleure qualité dans mon assiette. Ma plus belle découverte, c'est que ça m'a fait me rendre compte que j'étais plus spectateur, consommateur de ce monde, mais que j'étais acteur d'un monde meilleur, et que même si je ne suis qu'une personne au milieu de plus de 7 milliards d'humains, je peux, moi, décider de faire pencher le monde du côté qui m'intéresse. Je fais partie d'un supermarché coopératif, je consomme une énergie 100% verte coopérative, je suis dans une banque éthique et solidaire, et même au moment où on agit plus dans un quartier avec un budget participatif, ou même sur de la démocratie citoyenne, je comprends exactement pourquoi je le fais.
Et ben voilà, la preuve par l'exemple, Elliot Lepers, ça donne envie.
Ouais, je pense que c'est important de réussir à changer à un niveau individuel, parce que d'abord, ça nous permet de retrouver une prise sur ce sujet qui nous dépasse complètement et qui parfois nous semble très évanescent, en fait. Et je pense que déjà, réussir à changer ses comportements, c'est une manière de reprendre du pouvoir sur cette situation. Après, il faut toujours rappeler, je pense, que l'échelle individuelle, elle suffit pas. Elle permet de montrer l'exemple, elle permet de donner envie, elle permet soi-même de se sentir mieux. En revanche, il faut être très clair, c'est qu'on a besoin d'un changement de système. Et le système, il dépend de nos dirigeants politiques, de nos dirigeants économiques, industriels. Et donc, il faut qu'on utilise cette légitimité qu'on peut avoir en montrant l'exemple pour derrière créer un rapport de force. Et c'est à ce moment-là qu'on peut effectivement espérer changer les leviers qui permettent d'avoir l'influence nécessaire.
Oui, parce que Jonathan Guyot, je crois que c'est la moitié des émissions de gaz à effet de serre pour la France qui viennent des familles. Le reste vient d'ailleurs.
Oui, on le voit même à l'échelle d'une collectivité comme la mairie de Paris qui a fait un plan climat pour tendre vers la neutralité carbone en 2050. Il y a une part de responsabilité forte des citoyens. Et nous, notre principe, c'était de dire, OK, on a tendance en tant que citoyen à se déresponsabiliser face aux entreprises, face au pouvoir public, alors qu'on a un vrai pouvoir d'action. Et responsabiliser, c'est prendre conscience aussi à son échelle individuelle, mais qu'on peut agir collectivement, qu'on a une vraie force d'impact sur ces questions de changement climatique en changeant ses modes de consommation, comme le présente bien Julien Vidal, sa façon d'utiliser son argent, les placer aussi, se fournir en énergie. Et ça, ces petits pas citoyens sont nécessaires. On disait qu'il y a un rapport qui est sorti qui montrait que 3,5% des citoyens qui pourraient se mobiliser face à un gouvernement pourraient le renverser. On sait aussi, et je discutais l'autre fois avec un des cofondateurs de iBoycott, qu'1% du chiffre d'affaires qui change dans une entreprise impose à l'entreprise de changer ses pratiques. Et donc c'est comment collectivement on arrive à changer ça. Il ne faut pas oublier qu'un citoyen, c'est aussi un collaborateur, c'est aussi un habitant et un électeur. Donc il peut faire pression collectivement sur tous ces acteurs, toutes ces organisations.
Et c'est pour ça qu'il faut emmener de plus en plus de monde. Et Eliott Lepers, vous avez lancé en début de semaine avec plus de 60 youtubeurs une nouvelle initiative. Ça s'appelle On est prêt vidéo. On n'a pas l'image à la radio, on a le son.
On est prêt. Aujourd'hui, on a envie de vous annoncer qu'on est prêt. On est prêt à relever un grand défi.
On est prêt à agir pour le climat.
L'histoire a prouvé que toutes les mobilisations qui réunissaient 3,5% seulement de la population réussissaient à faire basculer un système.
En France, ça fait 2,5 millions de personnes.
À partir du 15 novembre, on se lance dans le grand défi.
Un défi inédit dans l'histoire de l'humanité.
Jour après jour, nous avons décidé de relever ensemble ce grand défi.
De l'incarner dans nos quotidiens et de nous encourager les uns les autres.
On va vous montrer comment on vit ce challenge à travers nos réseaux sociaux.
Rejoignez-nous sur la page Facebook On est prêt.
On vous expliquera comment on peut vivre ce changement.
Pendant 30 jours, on va vous proposer de vivre ensemble des solutions concrètes.
Et on va vous expliquer pourquoi on les a choisies.
Devenir zéro déchet, rejoindre une asso, aller dans une banque qui ne finance pas les projets fossiles, diminuer la viande ou encore baisser le chauffage.
Si on réussit à relever ce défi, on pourra raconter à nos gosses et aux gosses de nos gosses que grâce à nous, on a pu préserver la vie sur Terre.
Mais pourquoi je changerais moi, puisque tout le monde s'en fout du climat?
Bon, déjà, t'es pas tout seul, on est des millions à changer. Et en vrai, chaque jour, on est de plus en plus nombreux et surtout, on est partout.
Imaginez la chance qu'on a, on est la génération qui peut changer le monde.
Tu deviens un acteur de ce changement, un héros de l'histoire, alors, est-ce que t'es prêt? Parce que nous,
on est prêt.
Bah oui, devenir un héros de l'histoire, c'est tentant quand même, Eliott Lepers. Quel est l'objectif de « On est prêt » ?
Bah, on est prêt, ça répond à ce moment-là. Il est encore temps qu'à mobiliser notamment les ONG, les citoyens autour de grandes marches qu'a organisé le rapport de force. Et puis, on est prêt, ça vient parler à ceux qui sont beaucoup moins sensibilisés, aux plus jeunes également. Donc, avec tous ces youtubeurs qui touchent des millions de personnes, notamment des moins de 25 ans, c'est la génération qui va vivre l'essentiel de sa vie avec cette épée de Damoclès. Moi, j'en fais partie. Donc, on est d'autant plus concernés, on a d'autant plus envie d'agir, parfois moins avec notre bulletin de vote qu'avec notre manière de consommer. Évidemment, mais c'est aussi notre génération qui a la capacité de faire peur à nos dirigeants, et on en est là aujourd'hui. Il faut qu'effectivement, on ne leur laisse pas le choix, on ne leur donne pas la possibilité de se dérober. Donc ça veut dire 30 jours de défi, un défi par jour,
à partir du
15 novembre, qui vont être incarnés par tous ces créateurs, tous ces vidéastes des réseaux sociaux.
Qui, la base, pour la plupart, ne connaissaient absolument rien au sujet.
Je pense que tout le monde est un peu au courant, surtout notre génération, en revanche, n'avait pas forcément envie de s'engager dans ce genre de demande, ou avait peur de mal le faire, parce que c'est beaucoup de données, c'est parfois technique, on a peur de se tromper, on a peur de se faire disputer si on le fait mal. Donc c'est effectivement, là, on a créé un cadre où ils engagent leur communauté sur un sujet qui est extrêmement sérieux, alors que c'est pas forcément à leur habitude, et où ils vont s'engager eux-mêmes, donner de leur personne, montrer l'exemple, et puis donner envie à toutes les personnes qui les suivent, à toutes leurs audiences, donner envie, effectivement, de faire un pas de plus.
Alors il va y avoir différents groupes un peu thématiques, avec une notion de concours derrière. C'est un jeu.
Évidemment, il faut que ce soit ludique, et c'est ça qui, on est quand même sur un sujet qui nous plombe autrement, donc il faut qu'on trouve des manières d'avoir envie de le faire. Donc il y a trois catégories, effectivement, sur la nourriture, sur l'énergie et puis sur les déchets, et puis après il y a 30 défis, chaque créateur en choisit un qui va tenir pendant un mois, et puis chaque jour on en met en avant en engageant toutes les personnes qui participent au grand défi collectif.
Et alors, pourquoi uniquement un mois et pourquoi uniquement le climat ?
faut commencer par quelque chose. Le climat, c'est un sujet central, et puis c'est aussi une expérimentation. On essaie de voir comment est-ce qu'on arrive à engager des gens autour d'une cause de manière un peu différente de ce qui se fait aujourd'hui, en touchant des publics qui habituellement peut-être s'engagent pas. C'est ça qu'on expérimente depuis plusieurs semaines, et puis on espère pouvoir continuer. En tout cas là, voilà, on a plein de gens qui n'avaient jamais franchi ce pas jusqu'à maintenant, qui le font pendant un mois. On va voir ce que ça donne, et puis si ça réussit, eh bien ça nous donnera une méthodologie aussi. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train d'expérimenter avec Il est encore temps également, plein de manières différentes pour toucher à plein de publics différents, pour créer une mobilisation sans précédent. Parce que c'est de ça dont on a besoin. Donc on essaye. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Il est encore temps, c'est 10 millions de vues déjà sur la vidéo, 150 000 personnes inscrites. On va voir combien d'inscrits sur On est prêt. Et puis on continue. En fait, on lance un élan dont on a besoin. On lance l'élan à l'échelle de l'urgence. C'est tout simplement ça.
Alors, un élan pour l'instant franco-français, mais on va en parler dans un instant. Pourquoi pas à l'échelle de la francophonie. Allez, on se fait une petite pause musicale. Something has gone wrong. Blame me first as long as we open up our eyes. Why do we justify these foolish who are burning? All what's good and right if we don't wake up soon. This burden will be long. This burden will be long if we don't wake up soon. All we ever knew will be so deceiving, all common sense aside. This world wanders grieving, but from the depths we hide. We question of this hatred as we sacrifice. It's comatose, you see. How much longer can we bleed before we come to our senses again? Our senses again. If we don't wake up soon, this burden will be long. This burden will be long. If we don't wake up soon, all we ever knew will be burden will be long. This burden will be long if we don't wake up soon. All we ever knew will be gone. Will be gone. Timmy Coran dans C'est pas du vent. Comatose sur RFI, nous parlons de la mobilisation citoyenne qui s'amplifie pour que les décideurs politiques prennent enfin conscience que la préservation de l'environnement est essentielle pour la survie de l'humanité. Et ça commence par nous. Jonathan Guyot, le mouvement Solidarité Climatique que vous avez lancé a déjà réuni plus de 3000 personnes.
4000 aujourd'hui, un petit peu plus depuis 2015 de la COP21, et pas mal d'entreprises aussi. On est une dizaine d'ambassadeurs qui nous accompagnent parce qu'ils ont besoin de mobiliser leurs collaborateurs et consommateurs à agir avec eux.
Mais ça fait du monde tout de suite.
Ouais. Ça fait du monde et avec des belles mobilisations à venir. Donc nous, c'est vraiment l'idée de travailler avec toutes les organisations, tous les acteurs de la société pour essayer de toucher le citoyen dans son quotidien.
Alors justement, on parle beaucoup du citoyen. On a une citoyenne en ligne. Bonjour Swan Fauveau.
Bonjour.
Alors vous faites partie justement des personnes qui se sont inscrites sur le site Solidarité Climatique. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'agir ?
En fait, pour des raisons professionnelles, j'ai habité en Haïti jusqu'à il y a 6 mois à peu près. Et j'ai été témoin vraiment de... Donc c'est une petite île dans la Caraïbe extrêmement vulnérable. J'ai été témoin de différents effets du changement climatique On a eu un cyclone, il y a eu deux sécheresses, donc avec des paysans qui ont perdu énormément de bétail. Donc des situations vraiment dramatiques parce que c'est un pays qui est en première ligne. Donc ça m'a vraiment sensibilisée sur l'importance de se responsabiliser en tant que citoyenne. Donc quand je suis rentrée en France, j'ai fait cette démarche de m'inscrire sur ce site pour essayer de compenser ou en tout cas de faire une action à mon niveau pour limiter les effets au niveau global et notamment pour des pays comme Haïti où j'avais vraiment observé ça.
Ouais, agir ici pour limiter les impacts là-bas. Alors, qu'est-ce que vous avez changé dans votre quotidien ?
Alors, en famille, on s'est mis au compost. Donc ça, c'était un des premiers gestes auxquels on a adhéré parce que c'est pas compliqué. On mange beaucoup de légumes, donc il suffisait de trier directement les choses. Enfin, on avait un seau pour ça. Ça permet de réduire en fait le poids des poubelles. C'est tout bête, mais c'est super. Et en plus, du coup, après, on met ça dans le jardin, dans le potager, et ça fonctionne bien.
Et puis, vous avez modifié aussi votre alimentation ?
Oui, alors on a essayé aussi un petit peu de, alors l'alimentation et la consommation, d'acheter des produits équitables, de réfléchir un petit peu où est-ce qu'on avait acheté nos produits, le café, le chocolat. Donc on essaye d'acheter ça maintenant sur des filières dont on sait qu'elles sont périmétrices et puis qu'elles génèrent des revenus pour les producteurs, donc c'est plus intéressant. On a essayé de limiter la viande sur les repas aussi.
Et l'avantage avec Solidarité Climatique, c'est qu'on vous relance. Hein. Il ne suffit pas de dire « j'ai envie », on vient vous chercher par mail.
Exactement, voilà, on se sent accompagné. Pour moi, c'est très important parce que du coup, c'est valorisant. On n'a pas l'impression d'être tout seul. Il y a toute une communauté avec nous de citoyens. Donc on voit qui a coché le même geste que nous. On voit où on en est en termes de nombre de gestes. On doit un petit peu rendre des comptes sans non plus se sentir oppressé. Donc je trouve ça vraiment idéal en fait.
Merci beaucoup Swann Fouvo pour votre engagement et pour votre témoignage. Sur le continent africain aussi, les citoyens se mobilisent. C'est ce que l'on a pu constater avec la troisième édition du prix RFI Challenge App. Bonjour Sina Toussaka.
Bonjour Anne-Cécile.
Alors, je rappelle qu'au sein de RFI, c'est vous qui vous occupez de l'organisation de ce prix. Rappelez-nous de quoi il s'agit.
Alors le RFI Challenge App Afrique, donc c'est une initiative que nous avons lancée il y a 3 ans à présent. Le but cette année était justement de permettre aux Africains, en tout cas aux développeurs et à tous ceux qui travaillent dans ce milieu des nouvelles technologies, de proposer des solutions numériques autour du développement durable et spécifiquement autour de l'agriculture durable. Donc nous avons reçu plus de 300 candidatures et nous préparons la finale dont tu vas parler tout à l'heure.
Voilà, donc on a 3 finalistes aujourd'hui.
C'est ça, on a 3 finalistes qui proposent tous les 3 des projets autour de l'irrigation intelligente. Donc je peux parler rapidement de WeFly Agri, qui est une jeune entreprise verte en Côte d'Ivoire qui propose de faire des relevés précis des terres grâce à des drones par exemple. On a Serge Auguste Zanogo pour Saga au Burkina Faso qui propose une carte électronique disposant d'un programme informatique pareil pour faire de l'irrigation dans le secteur agricole. Et on a aussi un projet camerounais qui est AgroPad, qui est assez intéressant et qui permet justement de contrôler à distance via un téléphone mobile ces terres et en prenant le soin en tout cas d'inclure tout ce qui est énergie solaire. Voilà.
Alors 3 finalistes, il va falloir déterminer le gagnant. On vous en parle dans un instant, mais un prix ça implique des partenaires. Bonjour Florent Youzan.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes le directeur du laboratoire Innovation Afrique du groupe Société Générale. Alors de quoi s'agit-il ce laboratoire ?
Le laboratoire d'innovation, c'est un dispositif de proximité qui a été lancé en février 2016 et qui a pour vocation de stimuler et d'accélérer l'innovation au sein des filiales Société Générale d'Afrique. Donc c'est un laboratoire d'idées en étant un incubateur des initiatives innovantes qui naissent au sein des filiales Société Générale en Afrique.
Alors la Société Générale est parfois accusée de financer encore quelques projets de centrales à charbon de par le monde. Voilà, c'est une banque qui est un petit peu critiquée, mais vous n'agissez pas du tout dans ce domaine. Vous êtes vraiment un laboratoire pour accompagner la révolution numérique sur le continent africain et notamment au niveau francophonie. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être partenaire de ce prix RFI Challenge App ?
D'abord, il faut dire que ce prix RFI Challenge App Afrique a une belle révélation dans sa vision. Dans sa vision, parce que lorsque nous avons regardé les critères d'éligibilité des projets qui doivent être retenus pour la finale, nous avons été marqués par des points très importants tels que la capacité du projet à se déployer dans un contexte africain, surtout d'apporter une valeur ajoutée à des problèmes identifiés sur l'Afrique, et notamment pour des personnes reculées, avec la possibilité de prendre en charge de manière concrète des besoins identifiés. Pour nous, ce sont des critères qui rentrent dans notre vision, parce que l'innovation, c'est la capacité à résoudre de manière concrète les problèmes et changer le quotidien des populations. Donc on ne pouvait pas rester loin de cette belle vision qui rentre aussi dans notre démarche d'ouverture à l'écosystème des startups en Afrique, des innovateurs, et surtout pour avoir parcouru l'Afrique dans notre démarche d'intelligence collective en associant les startups dans nos réflexions sur la banque de demain. Il était important pour nous de saisir cette belle occasion qu'est RFI Challenge App Afrique.
Alors on se retrouve à Cotonou la semaine prochaine ?
Ben oui, avec beaucoup de plaisir, et ce sera aussi un honneur pour nous de faire notre part dans cette grande lutte pour l'inclusion numérique en Afrique.
Oui, parce que les trois finalistes ont donc rendez-vous avec nous à Cotonou au Bénin la semaine prochaine pour la grande finale qui va les départager. Et nous annoncerons le vainqueur lors d'un enregistrement public de C'est pas du vent à l'Institut français le mardi 13 novembre à 10h. Donc béninoises et béninois, nous comptons sur vous. Rendez-vous mardi prochain à l'Institut français de Cotonou à 10h. Venez nombreux, nous serons ravis de vous rencontrer. Alors puisqu'on est dans les appels, Elliot Lepers, je le disais, vous pouvez faire un appel vous aussi à la francophonie. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous nous avez décrit finalement comme dynamique, youtubeur, ONG, association, etc., c'est assez franco-français. En tout cas, dans votre démarche à vous, il est encore temps.
En tout cas, pour l'instant, effectivement, on se concentre sur la France, avec les engagements de la France vis-à-vis de la COP24 qui arrive. Et donc, pour l'instant, on rassemble des gens, effectivement, au local. Et il y a plusieurs manières de faire, en fait, pour faire grossir ce mouvement. D'abord, l'idée que des créateurs d'autres pays se mobilisent et que des créateurs créent des mouvements similaires. On est en train de parler avec des créateurs dans d'autres pays, notamment dans d'autres pays de la francophonie. Puis il y a des marches aussi, il y a des marches qui s'organisent un peu partout. Et il y a un travail qui va être fait pour qu'il y en ait de plus en plus au moment du 8 décembre, qui va être en plein milieu de la COP24. Et donc le 8 décembre, ça va être une date internationale, si tout va bien, avec des rassemblements partout.
Jonathan Guyot, on parlait là avec le prix RFI Challenge App de l'importance de l'agriculture durable en Afrique, hein, parce que les trois finalistes ont fait des propositions et ont été retenus parce qu'ils justement ils ont fait des propositions sur cette thématique. Au GRES, vous travaillez beaucoup sur la lutte contre la déforestation, notamment. Il y a un lien entre déforestation et agriculture, ce sont des sujets vraiment essentiels aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique.
Alors effectivement, 80% de la déforestation est liée à l'agriculture. Donc si on améliore l'agriculture, on limite la déforestation dans certaines régions du monde. Et le GRES, par exemple, a développé une application au Cambodge sur l'approvisionnement en charbon de bois, qui était une des causes de la déforestation. On ne parle pas vraiment de déforestation, on parle de dégradation des forêts, mais qui finissent par être déforestées. Et cette application, j'étais vraiment surpris de la découvrir la semaine dernière au Cambodge, permet en fait aux particuliers d'acheter du charbon de bois tracé directement depuis des forêts gérées durablement grâce à une appli où on peut commander, livrer en tuk-tuk directement chez soi. Et donc oui, la technologie peut être au service de grandes causes comme le climat, comme la déforestation.
Donc on voit bien que ça se développe partout finalement, cette entraide grâce au numérique.
Oui, alors c'est pas forcément la solution à tout. Nous, par exemple, avec l'outil Solidarité Climatique, on a développé cette plateforme. C'était l'objectif de montrer aux citoyens qui sont pas seuls, qu'ils agissent, que leurs petites actions ont un impact, puisqu'on montre l'impact que ça a en termes de CO2, mais aussi sur tous les objectifs de développement durable. Mais aussi, aujourd'hui, on se rend compte que le citoyen a besoin d'être mobilisé sur le terrain, près de chez lui, de pas se sentir seul. Et je pense que la technologie ne sert qu'un prétexte pour reconnecter les gens. Et une fois qu'ils sont reconnectés, il faut pouvoir les mobiliser et leur faire interagir pour qu'ils agissent encore plus vite.
On a bien compris en tout cas que c'est ce que vous essayez de faire, ainsi que Elliot Lepers et toutes les personnes qu'on a entendues dans cette émission. Merci à tous d'y avoir participé. Les liens vers vos défis, on est prêt, il est encore temps, solidarité climatique, tout cela sont sur la page de l'émission et les réseaux sociaux, hashtag c'est pas du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.